un président en fin de règne s'inquiétait, il n'y a pas très longtemps de cela, de la trace qu'il laisserait dans l'histoire. J'aimerais ce matin vous parler d'une femme qui, elle, ne s'est probablement jamais vraiment préoccupée de savoir quels souvenirs on garderait d'elle, mais dont Jésus, lui, a retenu un geste particulier qui a forcé son admiration au point qu'il a souhaité explicitement qu'il soit rappelé de génération en génération, toutes les fois que l'Évangile serait annoncé. Le texte que nous allons lire ce matin est un des textes les plus connus du Nouveau Testament qui a arrêté notre attention à plusieurs reprises au fil des années, mais qu'il me semble utile de relire ce matin. Nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12, et nous lirons les 8 premiers versets de ce chapitre. Jean 12, les versets 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas, Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi ne t'on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Quelques mots d'abord pour situer ce geste particulier, ce geste qui a comme enthousiasmé le Seigneur. C'est en tout cas ce que nous révèlent les textes parallèles dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Quelques mots d'abord pour situer ce geste dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, déjà, nous sommes à moins d'une semaine de la Pâque, 6 jours exactement. Autrement dit, selon toute vraisemblance, un vendredi soir, peu après le coucher du soleil. Dans l'espace, ensuite, nous sommes à Béthanie, à quelques kilomètres seulement donc de Jérusalem. Après s'être reposé quelque temps à l'est du Jourdain, dans la province de Pérée, pour être exact, Jésus, qui sait que son heure maintenant est venue, a décidé de se rendre une dernière fois à Jérusalem pour s'y livrer sans condition aux Juifs qui veulent sa mort, et il le sait. Sur sa route, nous dit-on, il s'arrête d'abord à Éphraïm, puis à Béthanie, le village de Marthe, Marie et Lazare, où ce soir, il se trouve encore. Un dîner a été préparé en son honneur, par qui on hésite, Matthieu et Marc nous soufflent le nom de Simon. Simon, un ancien lépreux guéri par Jésus. Nous sommes donc à Béthanie et selon toute vraisemblance dans la maison de Simon. Les convives sont nombreux et parmi eux, les observateurs avertis que nous sommes peuvent reconnaître Lazare. Lazare le ressuscité. Sa sœur Marthe, qui semble remplir la fonction d'hôtesse, et son autre sœur, Marie. La conversation va bon train. Et pendant que les hommes en particulier parlent, Marthe, elle, nous dit Jean, Marthe sert. Magnifique exemple, soit dit en passant, que celui de Marthe, les hommes bavardent, elle s'active. Sa façon sans doute à elle de traduire son amour des autres, son amour du Seigneur. Et je pose la question, seront-ils un jour assez nombreux, ces hommes et ces femmes, qui aiment en action et en vérité? Ceux-là, et non les beaux parleurs que nous sommes parfois, sont vraiment, pour l'Église, un cadeau du Seigneur. Bien qu'obscur, le plus souvent, leur ministère n'a pas de prix. Voilà donc pour le décor, une table bien garnie, des convives en grand nombre qui s'entretiennent avec le maître et Marthe, Marthe qui sert. Venons-en maintenant au geste lui-même, rapporté par Jean comme par ses collègues Matthieu et Marc. On mange depuis un certain temps lorsque brusquement, Marie se lève et sans un mot s'approche de Jésus. Elle a un flacon de parfum à la main et d'un geste sec, elle en brise le col et entreprend aussitôt d'en répandre le précieux contenu sur la tête d'abord, puis sur tout le corps de son Seigneur. Enfin, s'étant baissée, elle commence d'essuyer ses pieds avec ses cheveux dénoués. Dans le triclinium, ou dans la salle à manger de Simon, c'est la stupeur et le silence. Enfin, le silence, pas pour longtemps, hélas. Déjà, les disciples, qui ont repris leurs esprits, s'indignent avec Judas. Judas n'est pas le seul à réagir, si l'on en croit les autres évangélistes. Verset 5, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Et tous d'approuver leur bon sens. Ah, si les femmes pouvaient réfléchir un peu, un tout petit peu avant d'agir. Tous, sauf Jésus. Jésus qui intervient aussitôt, imposant à Judas et ses collègues de se taire, verset 7, « Laisse-la, laissez-la. » Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Verset 8, « Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Et le Seigneur d'ajouter alors, si l'on en croit Matthieu et Marc, « Je vous le déclare, c'est la vérité, partout où on l'annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » Partout, dans le monde entier. Quel honneur. À l'évidence, le geste de Marie est allé droit au cœur de Jésus. D'où sa volonté de le signaler à jamais à l'admiration de tous et donc à notre admiration. À nous ce matin. Maintenant, la question se pose, bien évidemment, pourquoi ? Pourquoi ? Parmi les réponses possibles, nous choisirons celle-ci, parce que le Seigneur a toujours été et sera toujours particulièrement sensible à ceux de nos actes, qui sont l'expression à la fois d'une humilité sincère, d'un amour authentique, et d'une immense générosité. Autrement dit, à tous ceux de nos actes qui ressembleront dans leur esprit, sinon dans leur forme, à celui magnifique, exemplaire de Marie. Car s'il est un geste qui résume d'un coup tous ceux que le Seigneur aime, c'est bien celui-là, qui est d'abord l'expression d'une humilité sincère. L'expression d'une humilité sincère. Si le premier mouvement de Marie, que nous rapportent Matthieu et Marc, et qui revient à briser la fiole de parfum au-dessus de la tête de Jésus, peut être compris comme une manière, somme toute assez traditionnelle, d'exprimer l'immense respect qu'elle porte à Jésus, son second mouvement, que Jean est seul à avoir retenu, et qui consiste à défaire ses cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur, qu'elle a comme inondé. Ce second mouvement, lui, ne peut être interprété autrement que comme un geste spontané d'humiliation et d'adoration. faut savoir en effet qu'un tel geste est tout à fait exceptionnel. Et ne se justifiait que dans la mesure où son auteur avait le sentiment de se trouver en présence d'un personnage hors du commun, devant lequel on ne pouvait que se jeter à terre. Mais n'est-ce pas précisément ce que ressent Marie ici ? Pour elle, plus de doute. Jésus est l'envoyé du Très-Haut, le Fils même de Dieu, venu à la rencontre des hommes, venu à sa rencontre. Consciente de sa misère autant que de son insignifiance devant lui, elle opte donc immédiatement pour la place la plus humble dans sa présence, à ses pieds, et le service le plus vil, d'ordinaire réservé aux esclaves que l'on dirait offensés, sa toilette. Et je dis là, puisse le regard que nous portons à la fois sur le Seigneur et sur nous-mêmes nous convaincre enfin de ne plus avoir d'autre ambition ici-bas que celle de le servir, et de ne plus avoir d'autre crainte que celle d'estimer indigne de nous les tâches humbles, discrètes, ingrates même, que réclame aussi son service. Alors, parce que nous aurons accepté de nous humilier sous la main puissante de Dieu, nous saurons que le jour vient où Dieu, selon sa promesse, nous élèvera. Mais si le geste de Marie fait partie de ceux que le Seigneur aime, fait partie de ceux que le Seigneur affectionne tout particulièrement, ce n'est pas seulement parce qu'il est l'expression d'une humilité sincère, c'est aussi parce qu'il est l'expression d'un amour authentique, l'expression d'un amour authentique. Pourquoi Marie agit-elle comme elle agit ici ? Parce qu'elle aime. Cette offrande exceptionnelle, elle la porte. Ce geste étonnant, elle l'accomplit pour cette seule raison. Elle aime le Seigneur et souhaite le lui faire savoir. Sans un mot, comme cela, en lui offrant d'emblée ce qu'elle possède de plus précieux. L'explication plus claire chez Matthieu et Marc donne Jésus du geste de Marie. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement, indique clairement, me semble-t-il, que c'est la perspective de la mort de son maître qui détermine depuis peu tout son comportement. Marie sait que Jésus va mourir, et sans doute a-t-elle deviné aussi que c'est pour elle, elle aussi, qu'il s'apprête à donner sa vie. Pour elle, misérable pécheresse, afin qu'elle, qui ne méritait que la mort, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Les autres ne savent pas encore, mais elle sait. Et ce qu'une prodigieuse intuition lui a révélé l'a totalement bouleversée. Quoi, le juste par excellence, offrir sa vie en sacrifice pour l'impur. Oh, le mystère de la grâce de Dieu, la richesse de son amour, comme l'écrira plus tard l'apôtre Paul, qui pourrait expliquer ses décisions, qui pourrait comprendre ses plans. Marie, elle, ne le peut certainement pas, mais ce qu'elle a entrevu depuis peu de l'amour divin l'a déjà tellement éblouie qu'elle n'a plus qu'une idée, s'approcher de celui dont elle sait désormais qu'il n'est pas seulement son Seigneur, mais qu'il est aussi son Sauveur, pour lui dire, à sa manière, qu'ainsi aimée par lui la première, elle ne peut que vouloir l'aimer en retour. Et c'est le geste inoubliable de cette femme totalement confondue par la grâce, celle de Dieu et de son Christ. Un acte qu'elle aurait pu différer et n'accomplir qu'au moment de l'ensevelissement de Jésus, précisément, c'eût été plus naturel, mais qu'elle préfère offrir à son Sauveur tandis qu'il est encore en vie. Et là, je ne résiste pas à la tentation de redire ce que j'ai souvent dit. Nous avons là une belle leçon pour nous qui avons plutôt tendance à réserver nos fleurs et nos couronnes aux seuls défunts. Le geste de Marie, donc, un geste d'amour. D'où l'immense bravo du Seigneur lui-même. Parce que s'il est des gestes qui le ravissent, ce sont bien ceux-là dont le motif premier, sinon unique, est l'amour, la reconnaissance, la gratitude éperdue. D'où l'importance pour nous, qui désirons lui être agréable en toute chose, du moins je l'espère, de nous poser régulièrement cette question. Ce que je fais ici ou ailleurs, pourquoi le fais-je ? Parce que j'y suis contraint, parce que je l'ai toujours fait, parce que je trouve cela plutôt agréable, ou parce que j'aime le Seigneur. J'aime mes frères et sœurs, j'aime les autres, parce que j'aime. Souvenons-nous de ces paroles de l'apôtre Paul, « Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. » Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis un zéro. Oui, le geste de Marie est exemplaire parce que geste d'amour et d'amour authentique, à quoi le reconnaissons-nous ? À quatre signes au moins, rapidement. Premier signe, il ne peut pas ne pas s'exprimer. Il est donc bien authentique, car l'amour, le vrai, est précisément celui qui ne peut pas garder le silence. Rester muet, tôt ou tard, il faut qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il se donne à entendre, à voir. Deuxième signe, il se traduit par des actes. « Mes enfants, écrira Jean aux chrétiens d'Asie, il ne faut pas que votre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. » Ce doit être un véritable amour. Or, le véritable amour se manifeste par des actes. Et tel est bien le cas de l'amour de Marie. De notre amour également. Nous disons aimer, mais où sont les preuves ? Aimer Dieu, mais où sont nos offrandes, nos sacrifices ? Aimer les autres, mais quel geste concret allons-nous inventer tout à l'heure, demain, qui diront enfin la réalité de cet amour. Troisième signe, il est plus fort que la crainte des hommes. Que fait Marie après qu'elle a répandu son parfum sur Jésus ? Elle défait ses cheveux pour essuyer les pieds de son maître. Elle s'expose donc immédiatement à la réprobation de tous. Il n'est pas convenable qu'une femme délie ses cheveux en public. C'est pour elle un déshonneur. Comment croire encore à sa vertu après qu'elle s'est ainsi comportée ? Mais que lui importe ici le regard réprobateur des hommes ? Seul compte pour elle Jésus, son sauveur, auquel elle doit une preuve d'amour. Aucun doute, son amour est réel. Et le nôtre. Puisse notre amour pour Dieu en particulier être assez fort pour bannir de nous toute crainte des autres. Quatrième et dernier signe, il ne compte pas. Une observation capitale que nous pourrions développer ici, mais que je préfère lier au thème de réflexion suivant qu'il nous faut introduire maintenant sans tarder. Pourquoi le geste de Marie fait-il partie de ceux que le Seigneur affectionne tout particulièrement ? Nous l'avons dit parce qu'il est l'expression d'une humilité sincère et d'un amour authentique. Il nous faut ajouter maintenant parce qu'il est l'expression d'une immense générosité. L'expression d'une immense générosité. L'offrande qu'apporte Marie en témoignage de sa reconnaissance et de son amour est, comme chacun sait, une offrande de prix. Un demi-litre de nard pur. Alors le nard, c'est quoi ? Une huile précieuse que l'on extrait à l'époque de la racine et de l'épine d'une plante aromatique que l'on ne trouvait guère qu'en Inde, et plus particulièrement dans l'Himalaya. Sa valeur, ici, difficile à évaluer exactement. Disons que 300 pièces d'argent, vous le savez, je ne fais que le répéter, c'est à peu près le salaire annuel d'un ouvrier agricole de l'époque. Convertissez, salaire annuel, j'ai bien dit, et vous ne vous étonnerez plus de ce que le trésorier présent et tous les disciples avec lui protestent vigoureusement. Allez, soyez honnêtes, qu'auriez-vous fait à leur place ? Pensez à tous les repas que l'on aurait pu servir aux pauvres avec cet argent. Quel gâchis à coup sûr ! Quel gâchis ! Cette femme a perdu la raison. Perdu la raison, dites-vous ? Eh bien, vous avez tout compris. Parce qu'elle aime du véritable amour, Marie, c'est vrai, a perdu la raison. Ou plus exactement, le sens du raisonnable, le sens de la mesure. Et c'est parfait ainsi, c'est le signe que son cœur brûle. Un cœur qui brûle ne compte plus. Oui, Seigneur, mais pendant ce temps, les pauvres, eux, les pauvres, réplique Jésus, mais ils seront toujours avec vous. Ne vous inquiétez donc surtout pas. Des occasions de les servir, si c'est ce que vous cherchez réellement, vous en aurez toujours beaucoup plus que vous ne pourrez en saisir. Mais moi, vous ne m'avez plus pour longtemps. Seulement cela, vous ne l'avez pas compris. Elle l'a saisi. C'est pourquoi elle a agi comme elle a agi, pour qu'avant mon départ, je sache que mon amour pour elle l'avait éblouie et qu'elle avait résolu d'y répondre en m'aimant à son tour d'un amour déraisonnable. Déraisonnable. Et croyez-moi, elle a bien fait. Oui, Marie a bien fait. Elle a bien fait, surtout lorsque, voulant dire son immense reconnaissance pour le sacrifice de sa vie, elle offre tout d'un coup à Christ ce que, sur le moment, elle a trouvé de plus précieux. C'est Balzac qui écrivait « On ne peut payer une chose inestimable que par une offrande qui soit hors de prix. » Marie l'a compris bien avant lui. Se souvient-elle de la protestation de David en 2 Samuel 24 « Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Peut-être. Elle sait en tout cas que les sacrifices que Dieu agrée, les gestes qui le ravissent, ne sont pas seulement ceux que l'on offre en toute humilité et avec amour, ce sont aussi ceux qui nous coûtent. Ceux qui nous coûtent. Et nous, le savons-nous. Quand, pour la dernière fois, avons-nous offert au Seigneur, à sa maison, à son service, ou aux autres, à notre frère, à notre prochain, quelque chose qui nous coûtait vraiment ? Je nous pose la question, je me la pose, je vous la pose. Lorsque, pour témoigner son amour à Jésus, elle décide de le lui offrir, ce qu'elle possède de plus précieux, Marie donc fait bien elle. Et elle fait d'autant mieux que sa résolution, que la résolution qu'elle prend est réfléchie, contrairement à ce que certains ont pu penser. La fiole d'albâtre qu'elle vide sur Jésus, c'est pas trouvée là par hasard. Marie l'a apportée. Elle l'a apportée non pour elle, mais pour le Seigneur. Peut-être même se l'est-elle procurée spécialement pour lui, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle a préparé son geste. Et cela est important. Lorsqu'elle brise le col de son flacon au-dessus de son maître, Marie n'agit pas sous l'empire d'une passion subite, violente, irrépressible. Son geste n'est donc pas du genre de ceux que l'on regrette aussitôt après qu'on les a accomplis. Il a été réfléchi. Et s'il est déraisonnable, c'est qu'il a été voulu ainsi. Que de promesses nous avons faites, que d'engagements nous avons pris devant le Seigneur dans un moment d'exaltation intense, par exemple, au sortir d'une épreuve peut-être, ou à la suite d'une intervention particulière de Dieu, ou encore à l'issue d'une belle prédication, que sais-je. Et combien de ces promesses, combien de ces engagements avons-nous réellement tenus ? Que chacun donne selon la décision de son cœur, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, selon la décision de son cœur. Réfléchir, décider et agir selon la décision de son cœur. Nous rappelons toujours qu'aucun serment vaut mieux qu'un serment en l'air. Lorsqu'elle choisit d'aller jusqu'au bout de son projet, Marie donc fait bien. Et elle fait encore bien quand elle répand sur le corps de Jésus tout le contenu de son précieux flacon. Une fois la tête de Jésus mouillée, elle pouvait s'arrêter, histoire, je ne sais pas, d'en garder pour une autre fois, ou, oui, de le vendre, ce reste, pour en faire profiter les pauvres. Qui trouverait à redire ? Mais elle continue jusqu'à ce que la fiole soit vide, entièrement vide. Pourquoi ? Mais encore une fois, parce qu'elle aime vraiment, et que lorsque l'on aime vraiment, on ne calcule plus. L'amour, le vrai, est toujours étonnamment généreux. Étonnamment généreux. À l'image, à vrai dire, de celui de Dieu, parce qu'il nous aimait sincèrement, Dieu n'a reculé devant aucun sacrifice pour assurer notre salut et partant notre bonheur. Il nous a comme abandonné, sans en rien retenir, ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique, son bien-aimé. L'amour, le vrai, ne sait pas où est la mesure. Et lorsqu'il donne ou se donne, c'est toujours sans compter. Il ignore donc tout des angoisses que connaissent trop souvent ceux qui n'ont qu'une peur, se faire avoir en donnant trop. Pour avoir compris ce qu'était l'amour authentique, un véritable élan de générosité, Marie a reçu de Jésus mieux que le tableau d'honneur. Les félicitations. Et nous ? Et moi ? Et vous ? Et nous ? Quels gestes récents ont pu nous valoir de la part du Seigneur mieux que les encouragements, le prix d'excellence ? Puisse le Seigneur nous donner enfin d'aimer vraiment. De cet amour qui, parce qu'il vient de lui, ne sait pas ce que veut dire compter, compter ses biens, compter son temps, compter sa peine, mais qui donne et se donne sans réserve et toujours à nouveau. Les gestes qui plaisent au Seigneur, ceux qui, comme le geste de Marie ici, expriment tout à la fois une humilité sincère, un amour authentique et une immense générosité. Ce qui, comme le geste de Marie ici, exprime, dévoile, autrement dit, glorifie l'amour de Dieu. Parce que participant de la même nature, puissent nos actes être tous à cette image, pour que tous nous trouvions à notre tour grâce à ses yeux. Amen.